Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Bonjour, bonsoir chers auditeurs de la radio Izambagatia Kakawe. Samedi 10 décembre 2022, nous sommes ravis de vous retrouver au rendez-vous du journal en français dont voici d'abord les principaux titres. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme donne espoir que le défenseur des droits humains, Tony Germain-Nina, va bientôt être libéré. Vous suivrez dans ce journal le président de cette commission, Vini Nimuraba. Les Nations Unies devraient éviter que le génocide commis au Burundi soit oublié. L'association AC Génocide Section Canada propose qu'il y ait une date de commémoration pour prévenir le risque de négation des faits de ce crime. Vous aurez l'avis du docteur Emmanuel Mounziza, secrétaire de la dite association. Et puis, comme pour tous les samedis, dans le magazine Au cœur de la société, vous suivrez comment quelques réfugiés ont bénéficié d'une formation leur permettant de surmonter le choc traumatique lié au viol et à la torture. Et voilà pour les titres de ce journal. Dans un instant, les détails.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Rebonjour et bienvenue. Bonne gouvernance pour commencer ce journal. Dans la province de Rumonge, la traque des administratifs soupçonnés de détournement de biens publics se poursuit. Hier vendredi, le gouverneur de Rumonge a été incarcéré à la prison centrale de la province. Il est accusé d'être le principal instigateur du vol des équipements offerts par le bureau du chef de l'État. La population continue de réclamer que tous les coupables soient poursuivis. Plus de détails avec Alexandre Nyongeko.
La nouvelle concernant l'incarcération de l'ancien gouverneur conservateur Nitunga est tombée dans la nuit vers 21h de ce vendredi, heure de son entrée à la prison centrale de Murembwe, en commune et province de Rumonge. Il y a rejoint trois de ses anciens administrateurs communaux, celui de Buyengelo, celui de Rumonge et celui de Rubugalama. S'y trouve également son ancien conseiller chargé des finances et administrations. Tous ces administratifs sont accusés d'avoir détourné du ciment et des tôles octroyées par la présidence de la République du Burundi. Des émissaires de la présidence sont depuis quelques jours sur place pour suivre de près ce dossier. Ces anciennes autorités sont d'abord auditionnées par le procureur près de la cour d'appel de Bururi avant leur transfert dans la prison centrale. La raison de son contournement est pour éviter que des agents de la sécurité et de la justice en province de Rumonge ne couvrent pas les suspects, selon toujours les mêmes sources. Une source judiciaire a indiqué que l'un de ses administrateurs a avoué que c'est leur chef hiérarchique direct qui les a appelés pour leur distribuer le matériel. Selon lui, consolateur Nitunga leur aurait dit, je cite, « Je sais que vous êtes pauvres, prenez ces tôles et ce ciment et allez construire vos propres maisons », indique notre source. Les administrateurs communaux de Burambi et Muhuta, les sœurs encore libres de cette province, ont été auditionnés dans l'après-midi de ce samedi. Consolateur Nitunga avait récemment été nommé deuxième conseiller à l'ambassade du Burundi en République démocratique du Congo. Dans sa récente descente en province de Rumonge, le premier ministre Gervais Ndirakobucha avait menacé de le rappeler même de Kinshasa suite à deux manquements lourds dont il était soupçonné. Avant son arrestation, consolateur Nitunga suivait des formations sur la diplomatie pour rejoindre Kinshasa.
Merci Alexandre Nyongeko pour toutes ces précisions. Et nous poursuivons ce journal par la page des droits de l'homme. Le 10 décembre, c'est la journée internationale des droits de l'homme. Et aujourd'hui, il s'agit de la 74e célébration. Elle survient au moment où au Burundi, les violations des droits humains demeurent d'actualité sous divers aspects. Ce constat s'accompagne de l'impunité dont jouissent les auteurs de ces crimes. Ceci figure dans une déclaration publiée à cette occasion par l'organisation SOS Torture. Suivez Armel Nyongele, président de SOS Torture.
Et le Burundi fait encore des séquelles de la crise de 2015 en ce qui concerne principalement l'impunité des crimes commis par des agents de l'État et leurs complices au sein de la police ou des miliciens Imbonerakure et du parti au pouvoir CNDD-FDD. Il y a aussi des criminalités qui persistent, où nous observons des corps sans vie abandonnés dans la nature ou sur des voies routières sans que la justice ou la police ne parviennent pas souvent à identifier les auteurs de ces crimes pour les poursuivre en justice. En ce qui concerne l'espace politique, ça reste verrouillé car les médias et les organisations de la société civile et suspendus ou radiés en 2015 ne sont pas encore réhabilités, tandis que la plupart des défenseurs des droits de l'homme restent en exil. Il y a des défenseurs qui restent arbitrairement détenus, comme c'est le cas de Tony Germain Hina et Florian Irangabiye, récemment rentrés du Rwanda. Et les opposants politiques aussi font également objet de harcèlement. Là, je dis, par exemple, c'est du parti CNL de Agathon Rwasa. Il y a des avancées à reconnaître, comme la libération des prisonniers politiques et le rapatriement volontaire des réfugiés dont les effectifs ont augmenté depuis 2020. Mais le nombre de réfugiés qui rentrent a tendance à diminuer à cause justement de ces violations qui persistent. Et le président de la République, Evariste Ndayishimiye, tient un discours favorable à la promotion et à la protection des droits de l'homme, mais la parole n'est pas souvent liée à l'acte. Nous recommandons au gouvernement de lier l'acte à la parole en matière de respect des droits humains, conformément à ses engagements nationaux, régionaux, internationaux et relatifs.
Nous restons à cette journée. Les troubles observés au Congo résultent de la présence des génocidaires rwandais présents sur le sol congolais, comme cela contient dans un communiqué du 30 novembre 2022 de la conseillère spéciale chargée de la prévention du génocide. C'est ce que rappelle l'association AC Génocide Section Canada à l'occasion de la journée internationale de la commémoration des victimes du génocide, célébrée le 10 décembre de chaque année. Le docteur Emmanuel Nguziza, secrétaire de AC Génocide Canada, demande à la conseillère spéciale auprès des Nations Unies pour la prévention du génocide de prévenir le risque de négation totale du génocide contre les Tutsis du Burundi en l'ajoutant à la liste officielle des atrocités que l'on commémore chaque année en date du 9 décembre. On l'écoute.
Nous avons également profité de l'occasion pour demander au secrétariat des Nations Unies, au bureau spécial chargé de la prévention du crime de génocide, de constater donc cette contradiction et de ce fait de prendre des mesures urgentes pour que la négation en cours du génocide contre les Tutsis, qui est savamment entretenue et de façon soutenue par la CVR, sous prétexte de redresser le tort causé à la composante autour de la nation, cesse parce que dans leurs travaux d'excavation, d'investigation, la CDR en place met l'accent sur les malheurs, je dirais, sur les crimes commis contre la composante Hutu, et de la même manière, elle occulte complètement toutes les traces, toutes les preuves du génocide perpétré contre les Tutsis. Et nous avons des rapports, nous avons des indications que ici et là, à travers le pays, les sites, les excavations que la CVR opère sont des fosses communes où reposent les gens tués par le CNDD et le FODEVO avant, mais qu'on présente aujourd'hui comme des victimes de 1972-73, même si à l'époque nous savons que ce n'était pas question d'exterminer les Hutus. Il y a une répression qui, dans la foulée, a fauché des Hutus parfois de façon irrégulière, mais au départ il était question d'exterminer les Hutus. C'était cela la perte du parti Hugo, le grand-père, je dirais, idéologiquement parlant, du FODEVO et plus tard, du CNDD-FDD. Eh bien, il est judicieux de rappeler que aux Nations Unies, ou plutôt les Nations Unies fonctionnent sur base des apports des États. Et du moment donc que nous sommes tous au courant qu'au Burundi, c'est une organisation qui a perpétré le génocide contre les Tutsis, et que de ce fait, on ne peut pas s'attendre à ce que le pouvoir CNDD-FDD intervienne aux Nations Unies pour demander sa propre condamnation. Il nous appartient, nous, acteurs anti-génocide, activistes anti-génocide, de faire la lumière d'abord, d'informer, de faire pression auprès des gouvernements influents pour que le Burundi ne soit pas en cas atypique.
Et terminons cette page par cet espoir de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et se dit satisfaite de l'indépendance de la magistrature burundaise dans la gestion de certains dossiers en justice. Vigny Nimuraba, président de cette commission, indique que la CNIDH attend que le dossier du défenseur des droits de l'homme, Tony Germain Gina, soit bientôt clôturé. Je vous prie de l'écouter.
La CNIDH apprécie les efforts de la justice dans la poursuite des individus qui narguent les instances judiciaires tout comme s'ils étaient au-dessus de la loi, mais qui se trouvent actuellement derrière les barreaux à Rumonge, Nyanzarak, Bujumbura, Ngozi et ailleurs, envie de répondre de leurs actes. La CNIDH encourage la chaîne pénale de rester tenace pour désillusionner et traquer tous les contrevenants à la loi, afin de les redresser dans l'intérêt supérieur de la nation. Bien plus, la CNIDH note avec satisfaction la démonstration de l'indépendance de la magistrature dans certains dossiers, à l'instar de celui de Tony Germain Kina, qui se poursuit normalement et que notre commission souhaite qu'il soit clôturé au plus vite possible. La CNIDH se réjouit de la clémence et de la générosité du juge suprême, Évariste Ndayishimiye, qui a décrété la grâce présidentielle dont ont bénéficié plus de 5300 prisonniers, remplissant les conditions prévues par la loi, et ainsi contribuer au désengorgement des prisons. Nous le supplions de faire encore un geste pour diminuer la population carcérale afin que ces prisonniers contribuent au développement économique du pays eux aussi.
Inzamba.
Et le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui revient sur la capacité à surmonter les chocs traumatiques affichés par 13 réfugiés burundais victimes de viols et de tortures après une formation de couture. Au cœur de la société vous est présenté par Zawadi Grasse.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Nagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Les crimes de viol et de torture ont été commis par les forces de l'ordre de Burundi et la milice Imbonerakure au cours de la crise survenue en 2015, selon les différentes organisations de défense des droits de l'homme. Certaines victimes ont été échappées à la mort et ont pris le chemin de l'exil, principalement vers les pays voisins. Parmi celles qui se trouvent au Rwanda, il y en a qui ont eu la chance d'avoir des organisations qui leur offrent un soutien moral et matériel. Par exemple, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi accompagne psychologiquement 13 réfugiés victimes de viols et de tortures et les formes en couture. Est-ce que ce genre d'accompagnement est-il à mesure d'aider ces personnes vulnérables à se remettre de leur traumatisme? Voilà sur quoi va porter ce mini-magazine au cœur de la société de ce 10 décembre 2022. Bonjour Nyongere est à la présentation, bienvenue. Ce vendredi 9 décembre 2022, 13 réfugiés burundais ont reçu des certificats en couture. Tous les 13 sont victimes soit de torture, soit de violences sexuelles. Ils sont remis de leur angoisse post-traumatique après cette formation. Ils l'ont confié à nos confrères de la radio Inzamba.
J'étais désespérée. À Kigali, je menais une vie difficile. J'étais seule et isolée. Mais le mouvement des femmes nous a rassemblés. Il a été une famille pour nous. Mes camarades sont aussi ma famille. Comme des femmes qui ont subi des violences, on a eu la chance de suivre des traitements psychologiques. On a été soulagés. Au départ, je faisais des cauchemars. Je pensais à ce qui m'était arrivé. Mais aujourd'hui, je me sens bien. Je suis épanouie. Pour le moment, je sais faire la couture. Je ne peux plus aller faire coudre mon habit ou celui de mon enfant à quelqu'un d'autre. Avant d'intégrer mes amis de la communauté, j'étais isolée. Mais après avoir démarré cette formation, j'ai découvert en moi un potentiel. Il y a des réfugiés qui n'ont pas eu cette chance. Aujourd'hui, je travaille comme un réfugié qui n'oublie pas d'où il est venu. Je suis content d'avoir aujourd'hui un métier qui pourra aussi servir à d'autres. Le plus important, c'est de s'accepter et d'accepter sa vie. Ce qui tue les gens, c'est rester dans l'isolement. Nous avons suivi cette formation dans une bonne ambiance. Le formateur nous mettait à l'aise parce qu'il savait bien qu'on a rencontré des problèmes. On a eu la chance d'avoir près de nous un psychologue. Pour le moment, je suis un homme fort. Je sais que je suis capable de faire un métier et je peux tracer le chemin de mon avenir. Je dois donc cette confiance à cette formation. Vous avez vu ce qu'on a accompli, des habits qu'on a cousus. Les habits que nous portons aujourd'hui dans ma famille, c'est mon œuvre.
Capter l'attention des personnes victimes de violences atroces pour pouvoir les former n'était pas tâche facile selon Séraphine Nissabwe, coordinatrice de ce projet au sein du mouvement Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité.
Ce n'était pas du tout facile parce que les gens qui ont été torturés, les gens qui ont subi des viols, c'est pas du tout facile. Parce que quand on était en train de parler avec eux, des fois, ils se sont sentis blessés, ils ont pleuré, et ce n'était pas facile, mais au fil des jours, ils ont accepté, ils ont fini par accepter ce qu'ils ont touché. On a utilisé l'empathie, on s'est mis en place, on s'est mis dans leur place pour essayer de les comprendre et essayer de les guider et de les orienter.
Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité continuera d'accompagner les bénéficiaires de cette formation jusqu'à ce qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes, selon sa directrice exécutive, Jeanne d'Arc Zanignan.
Dans ce projet, on a aussi songé à les faire munir d'un kit de démarrage pour ceux qui vont faire de la couture. On a la chance que 7 d'entre eux, ils se sont regroupés en atelier. Donc, on a essayé de les fournir des outils comme des machines, comme tout ce qui est nécessaire pour le commencement. Et surtout, concernant le loyer, vous savez très bien que c'est très difficile. Ils viennent juste de terminer, mais ils ont encore un long chemin à faire. On a songé effectivement à leur offrir un loyer pour 4 mois et tout ce qui va avec pour commencer à travailler et ainsi ne pas avoir ce poids du loyer ou de tout ce qui est électricité sur eux, mais aussi de pouvoir travailler sans se soucier de ça.
Le mouvement Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi indique qu'il compte continuer son travail d'accompagner les réfugiés victimes de viols et tortures même l'année prochaine pour parvenir à la réintégration psychosociale. Ce mouvement interpelle toute âme sensible de penser à faire sa part pour aider ces personnes victimes de graves violences car leur traumatisme est surmontable si elles reçoivent du soutien adéquat. C'est parti que prafin l'émission au cœur de la société d'aujourd'hui. Bonfils Nyongere était à la présentation. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Avant de clore ce journal, Francine Kanyange nous présente la revue de presse de ce samedi.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Bienvenue chers auditrices et auditeurs de la radio Inzamba. La revue de presse de ce samedi commence par le dossier sécuritaire. Le journal en ligne SES Média écrit sur le phénomène de cadavres qui s'observent ici et là dans le pays. En une période de 3 mois, 8 corps sans vie ont été retrouvés dans les provinces de Tuitoke, Bururi et Rumonge. À Tuitoke, 4 cadavres ont été recensés en moins de 3 jours. Il s'agit d'un jeune homme dont le corps, découvert, baigné dans le sang, le mardi 6 décembre de cette année, sur la colline Marambo de la commune Rugombo, tout près de la rivière Nyakagunda. Il a été enterré précipitamment par de jeunes Imbonerakure. Non loin, sur la colline Kigazi de la même commune, un enfant de 2 ans et demi, laissé chez son voisin, alors que ses parents partaient au champ, a été retrouvé mort la même date. Le 5 décembre, un cadavre en décomposition a été découvert sur la colline Rousoro. C'était celui d'une femme. Selon SES Média, elle a été tuée après avoir été violée. Son identité reste inconnue. Elle a été immédiatement enterrée sur ordre des autorités locales. Un jour avant, un homme âgé a été retrouvé mort à la transversale 7 sur la colline Karurama. à moins de 3 km du chef-lieu de la province, Cibitoke. N'ayant pas été identifié, son enterrement a été ordonné par les autorités. Phénomène de cadavres également au sud du pays, plus précisément dans les provinces Bururi et Lumongue. En moins de 3 semaines, le même journal SES Média a enregistré 4 corps sans vie. Au centre urbain de Lumongue, un jeune garçon de 12 ans a été retrouvé mort. L'administration a signifié que l'enfant était mort noyé dans le lac Tanganyika. Les habitants réclament des enquêtes. À Bururi, province voisine, un corps d'un homme a été retrouvé sur la colline et commune Songa le 5 de ce mois de décembre, tout près de la rivière Murembwe. La victime était ligotée et attachée sur une grosse pierre. Le corps a immédiatement été enterré. Dans la même commune de Songa, le corps sans vie dont prénommé Julien a été retrouvé sur la colline Rwanda le 20 novembre dernier. La victime était réparateur de radio. Nous poursuivons cette revue avec Burundi Echo qui écrit sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, Félicité Fraimana, psychologue œuvrant au sein de l'association Nurengao, précise que l'approche psychosociale est très efficace pour la lutte contre ces violences. Selon la psychologue, on a constaté que la victime ne guérit pas définitivement, étant donné que cela peut affecter d'autres membres de la famille, dont le mari et ses enfants. Cela a été une autre motivation à la base de la création de l'approche psychosociale APS, d'où il faut permettre à la communauté de s'asseoir ensemble pour trouver des solutions aux problèmes auxquels elle est confrontée. Les blessures de la vie sont traitées et peuvent guérir. Malheureusement, déplore-t-elle, le manque de moyens ne permet pas la couverture de tout le territoire. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cet élément que nous bouclons la revue de presse de ce samedi. Vous étiez avec Francine Kanyangé. Passez un agréable week-end chez vous. Au revoir.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Merci Francine Kanyangé, merci à vous chers auditeurs pour votre attention, merci à nos équipes de la radio Inzambagatsekakawe pour la réalisation de ce journal, Alice Akimana qui vous l'a présenté, vous dit au revoir et à la prochaine.